Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacune et chacun dans ce culte à la radio. Qui que nous soyons, pratiquants ou non, croyants ou non, une parole nous y attend peut-être. Alors pour nous préparer à la recevoir, je voudrais d'abord partager avec vous un texte d'un théologien protestant, Georges Crespi, tiré d'un ouvrage intitulé « Croire aujourd'hui ». Alors l'aujourd'hui de Crespi, il n'est plus tout à fait notre aujourd'hui, puisque l'ouvrage a plus de 40 ans, mais je crois qu'il conserve une grande part de son actualité. Parole donc à Georges Crespi. Je crois, qu'on excuse la première personne, mais ici chacun ne peut parler que pour soi-même. Je crois donc que nous sommes entrés dans un temps où la religion chrétienne et tout ce qu'on est convenu de mettre sous ces mots est morte, et que sa mort est la condition même de la vie des hommes dans l'évangile de Jésus-Christ. Naturellement, ce propos demanderait à être commenté, disons pour faire court que c'est ma certitude qu'aujourd'hui se vérifie l'énigmatique déclaration de cet évangile : celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ et de sa bonne nouvelle, il la retrouvera. Il n'est agréable pour personne de mourir, même symboliquement. Mais si nous ne mourons pas à la religion chrétienne, nous ne ressusciterons pas au monde nouveau dont nous n'avons cessé de décrire l'exigence et la présence. C'est là que s'engage tout le débat, au regard duquel tout le reste pourrait bien être que littérature. Et si l'on veut une formule encore plus abrupte, il s'agit de mourir à la religion pour naître à la foi, car tel est l'enjeu. Le choix de cette lecture s'éclairera tout à l'heure quand nous commenterons l'un des textes de ce jour. Mais à présent, c'est le moment de la louange. Nous louons Dieu. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit-Saint, il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Alors, assurés de cet amour de Dieu dont nous venons de parler, nous reconnaissons à présent notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assuré de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit suffisamment notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre, tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Et nous recevons à présent une parole de pardon et de vie avec ce verset biblique. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et cette marche vers le royaume, nous en recevons l'exhortation à travers ce commandement par lequel Dieu nous fait connaître sa volonté. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans un seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. C'est à présent le moment de lire la Bible et nous prions avant de le faire. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous t'en prions, donne-nous maintenant ton esprit, afin que l'Écriture devienne en nous parole qui illumine nos vies. Alors, des trois textes proposés pour ce dimanche, j'ai retenu celui de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, et la lecture ira du verset 11 au verset 18, Hébreux 10, 11, 18. Je lis le texte dans la traduction œcuménique de la Bible. Et tandis que chaque prêtre se tient chaque jour pour remplir ses fonctions et offre fréquemment les mêmes sacrifices, qui sont à jamais incapables d'enlever les péchés. Lui, par contre, le Christ, donc, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. Par une offrande unique, en effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. C'est ce que l'Esprit-Saint nous atteste lui aussi, car après avoir dit, c'est une citation de l'Ancien Testament, « Voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec eux après ces jours-là », le Seigneur a déclaré, « En donnant mes lois, c'est dans leur cœur et dans leurs pensées que je les inscrirai, et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. » Or là où il y a eu pardon, on ne fait plus d'offrande pour le péché. Alors, je dois le dire en commençant, on n'aime pas beaucoup le texte de ce jour. Il nous parle du sacrifice du Christ, mort pour nos péchés, mais nous ne nous reconnaissons plus guère dans cette théologie du sacrifice. Et en tout cas, la différence de ce qui se passe dans les églises évangéliques, dans nos temples réformés, c'est un thème que nous abordons très rarement et toujours avec un peu de gêne. Ce texte nous parle encore d'un Christ glorieux qui triomphe de ses ennemis. Ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Mais notre Christ à nous est un Christ compatissant, qui, conformément au commandement qu'il a lui-même donné, aime ses ennemis. Parce qu'au fond, si un texte comme celui-ci nous dérange, c'est pour de bonnes raisons, pour des raisons évangéliques. C'est au nom même de notre foi chrétienne que nous ne croyons plus en ce Dieu terrible qui écraserait ses ennemis. C'est au nom même de notre foi chrétienne que nous ne croyons plus en ce Dieu terrible qui exigerait pour sa satisfaction la mort d'un innocent. Mais voilà, ces textes sont là, car ce thème de l'œuvre expiatoire du Christ, ou ce thème de son triomphe final sur ses ennemis, ne sont pas des points de détail, des moments passagers d'égarement des auteurs bibliques, une sorte de concession malheureuse à l'esprit du temps. Non, c'est des thèmes qui occupent une place considérable dans les Écritures. Alors, et c'est la méditation que je voudrais partager avec vous, est-ce que ces thèmes-là, est-ce qu'un texte comme celui-là n'a-t-il réellement plus rien à nous dire, ou au contraire, peut-on en recevoir quelque chose? Je commencerai par peut-être souligner le caractère profondément subversif de l'épître aux Hébreux, d'où est tirée donc la lecture de ce dimanche. Quand l'auteur écrit au verset 11, Les sacrifices qui sont prescrits par la loi de Moïse, sont à jamais incapables d'enlever les péchés, alors même que c'était la fonction du sacrifice d'enlever les péchés, eh bien, en écrivant une phrase comme ça, il ne fait rien moins que saper, en quelque sorte, à son fondement, la religion de son temps. Le sacrifice était la base de la vie religieuse du culte juif et de beaucoup d'autres cultes dans l'Antiquité. Et donc l'Épître aux Hébreux apparaît comme un réquisitoire virulent contre la religion, et peut-être pas seulement contre la religion du temps où le texte a été écrit, mais peut-être contre toute religion. Et là on retrouve un écho à ce que disait Georges Crespi au début de ce culte. Car qu'est-ce qu'au fond que la religion? Eh bien on pourrait la définir comme un ensemble de rites, que l'on répète régulièrement, et cette dimension de la répétition est soulignée dans le texte, c'est le propre du rite, le rite ça se répète, des rites qu'on répète régulièrement et qui sont destinés à se rendre Dieu ou les divinités favorables. Eh bien ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, pour dire de manière un peu triviale, eh bien c'est que la religion ça ne marche pas. Voilà le message radical de l'Épître aux Hébreux, la religion, ça ne marche pas. Et au demeurant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a été à bonne école pour une telle affirmation, puisqu'un autre avant lui a dit « la religion ne marche pas, les sacrifices rituels ne servent à rien ». Et il l'a dit de manière musclée, en chassant les marchands qui, à l'intérieur du temple, vendait les animaux à sacrifier. On interprète souvent ce texte comme de Jésus chassant les marchands du temple, comme un texte contre une sorte de dérive commerciale ou mercantile dans le temple. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus radical, c'est qu'on vendait des animaux dans le temple pour accomplir des sacrifices. Et s'il n'y a plus de vendeurs d'animaux dans le temple, il n'y a plus de sacrifices. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que cette libération à laquelle Jésus et à sa suite l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous convie, une libération à l'égard de la religion, à l'égard de la religion du rite et du sacrifice, est-ce que finalement on a besoin de Jésus pour le faire, pour se libérer de la religion? On pourrait dire en effet, comme beaucoup de philosophes critiques de la religion l'ont dit, que la religion naît de la peur. Les hommes sont religieux parce qu'ils ont peur des malheurs qui peuvent leur tomber dessus, dans cette vie ou dans une autre, et peur du Dieu terrible ou des divinités redoutables qui envoient ces malheurs. Mais si au fond la religion était cela ou n'était que cela, on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ pour nous libérer de la religion. L'athéisme suffirait. Il suffirait de dénoncer comme une illusion la croyance en ce Dieu terrible et de rejeter en conséquence toutes les pratiques destinées à amadouer ce Dieu redoutable. Il me semble cependant, c'est une hypothèse que j'avance, que le besoin auquel la religion cherche à répondre, un besoin qui est si présent dans nos sociétés finalement, alors qu'on a cru un temps que peut-être on en finirait avec la religion, ce besoin est certainement un besoin existentiel plus profond que la peur. Et ce besoin, je le décrirais volontiers avec le mot de l'apôtre Paul, le mot de justification. Nous cherchons au fond à justifier notre personne, justifier notre existence, justifier nos choix. Ce besoin de justification, nous l'éprouvons notamment quand nous ne sommes pas bien fiers de nous, que nous avons le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, d'être passé à côté de l'essentiel. Nous l'éprouvons aussi quand nous cherchons du sens. Quelle est notre place? Quel est le but de notre vie? Où va notre monde? Eh bien, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, au fond, si je le dis en langage moderne, c'est que la religion échoue à répondre à ce désir existentiel profond d'une justification. Elle n'apporte que des réponses partielles, passagères, et c'est pourquoi le rite doit être sans arrêt répété. Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Jésus-Christ seul peut répondre à notre désir de justification, parce que justement, à la différence des sacrifices rituels, son sacrifice est parfait, et donc unique et définitif. » Alors on en vient là au cœur du sujet, au cœur du problème pour nous réformés qui nous sommes défiants à l'égard de la théologie du sacrifice. Qu'est-ce que veut dire cette affirmation que le Christ accomplit un sacrifice unique et définitif? Il me semble qu'on peut comprendre cette affirmation de deux manières diamétralement opposées. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de ce thème. Soit on pense que l'œuvre du Christ suit en quelque sorte le modèle de l'ancienne religion, de la religion du sacrifice. Et on ne sort pas alors du carcan religieux. On ne sort pas du Dieu terrible qui exige le sang de l'innocent, que ce soit celui d'un bouc ou d'un agneau, ou que ce soit celui de son fils. Et à ce compte-là, il n'y a pas de rupture. Le christianisme n'est que la continuation des anciennes religions. Et une continuation d'une certaine manière plus terrible qu'elle, où le sang de l'homme innocent a remplacé le sang des animaux. Mais on peut, et à mon sens, on doit comprendre l'œuvre du Christ décrite dans le Nouveau Testament comme un sacrifice, on doit la comprendre autrement. Elle n'est pas un sacrifice de plus. Et c'est bien précisément pourquoi cet acte est unique. Elle n'est pas un sacrifice de plus qui suivrait le modèle des anciens sacrifices, mais elle signifie purement et simplement la fin de la religion du sacrifice et l'avènement d'une compréhension nouvelle de Dieu. Dire que le Christ accomplit un sacrifice définitif, c'est en vérité dire qu'il met fin à la pratique des sacrifices et avec elle à l'ancienne religion. Et c'est là, je crois, toute l'ambiguïté de l'Épître aux Hébreux qui a créé tant de malentendus dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux emploie le langage religieux du sacrifice pour annoncer en vérité la fin de la religion du sacrifice et de la conception archaïque de Dieu qui va avec. Et donc je n'hésiterai pas, je parlais tout à l'heure du caractère subversif de l'Épître aux Hébreux, je dirais, formule un peu provocante, que l'Épître aux Hébreux est un véritable traité d'athéologie. Elle annonce la mort des anciennes conceptions de Dieu et des anciennes religions, et la naissance d'un nouveau Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, mais qui est déjà un Dieu largement préfiguré dans le Premier Testament. Et donc, voilà, justement, à mon sens, comment il faut comprendre cette idée du sacrifice unique et parfait, non pas comme la reproduction des anciens sacrifices, mais comme la fin de la religion ancienne. Alors, je tourne un petit peu autour du pot, je n'ai toujours pas dit en quoi le sacrifice unique et parfait du Christ signifiait la fin de la religion du sacrifice et des représentations archaïques de Dieu. Eh bien, il me semble qu'on peut exprimer la révolution accomplie par l'Évangile en disant que le Dieu de Jésus-Christ n'exige pas comme les dieux païens, comme les dieux des religions, le sacrifice de l'innocent, mais qu'il est lui-même l'innocent qui se sacrifie. Le Dieu de Jésus-Christ n'exige pas le sacrifice de l'innocent, il est l'innocent qui se sacrifie. Pour le Christ, être habité par Dieu, ça veut dire vivre dans la compassion et le service des autres, en allant, s'il le faut, non pas volontairement, non pas par goût du martyr, mais s'il le faut, jusqu'au bout, jusqu'à y perdre la vie. Et par cette manière-là de vivre tout entière tournée vers l'autre, Jésus finalement atteste que son Dieu n'est pas le Dieu méchant qui exige le sang de l'innocent, mais qu'il est infinie compassion, amour inconditionnel. Au fond, on dit « Dieu nous est révélé en Christ », c'est-à-dire que c'est dans la manière dont le Christ vit qui nous signifie finalement sa compréhension de Dieu. Et c'est précisément parce que le Dieu de Jésus-Christ est amour inconditionnel que Jésus-Christ réussit, nous dit l'Épître aux Hébreux, là où la religion échoue, c'est-à-dire réussit à satisfaire notre désir de justification. Car à ce désir de justification, il n'est plus répondu comme le faisait l'ancienne religion, « Fais ceci, fais cela, accomplis le rite ». Il nous est répondu, « Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à être justifié, car tu es aimé inconditionnellement. Tu n'as pas à faire d'offrande pour tes fautes, car tu es pardonné à jamais. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait ou n'aies pas fait, tu as une valeur absolue. Ta vie, ta personne valent inconditionnellement. » Voilà, à mon sens, l'évangile libérateur de Jésus-Christ qui met fin à toute religion, c'est-à-dire à toute tentative, justement, de se justifier. Tu n'as pas à te justifier, tu es aimé tel que tu es. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, dans la fin du texte que nous avons lu, que la religion est finie avec ses règles, ses pratiques. La seule chose qui reste, c'est de vivre de la vie même du Christ, d'entrer dans la dynamique de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est ce que dit le texte en citant le prophète Jérémie. Hein, c'est dans leur cœur et leurs pensées que j'inscrirai mes lois, et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Vous êtes libérés de la culpabilité, libérés du désir de vous justifier. Vous êtes libérés du carcan des lois, des règles, des rites. Vous n'avez plus qu'à laisser parler votre cœur, à vous laisser porter par l'amour dont vous êtes aimé. Alors on me répondra que, en disant des choses comme ça, je vis un peu dans le monde des bisounours. Si les chrétiens étaient exclusivement habités par l'amour de Dieu, ça se saurait depuis longtemps, et le monde aurait certainement un autre visage. Alors c'est vrai que Jésus-Christ ouvre un chemin, mais ce chemin est encore bien long à parcourir. Le règne de l'amour est une promesse, mais cette promesse n'est pas encore réalisée. Et c'est ici que nous rencontrons, et je terminerai là-dessus, le second thème qui nous a gênés dans notre lecture, celui du triomphe du Christ sur ses ennemis. Alors, relisons le verset 13. Texte nous dit « Le Christ siège pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis en soient réduits à lui servir de marchepied. » Il y a deux choses dans cette phrase. Il y a l'idée que le Christ règne déjà, mais que ses ennemis ne sont pas encore soumis. Il y a un déjà et un pas encore. Et le temps dans lequel nous vivons est justement le temps de ce déjà et de ce pas encore. En utilisant ce langage que nous trouvons à juste titre bien martial, un langage mythologique, les premiers chrétiens ont voulu dire quelque chose de décisif. Ils ont voulu dire qu'en Christ, il s'était passé quelque chose de fondamental, mais que ce quelque chose attend encore son accomplissement. C'est déjà réalisé, mais pas encore complètement. Alors une telle phrase, comme celle qui parle du sacrifice du Christ, peut prêter et prête effectivement un malentendu. C'est-à-dire qu'on peut projeter sur la phrase là du Christ réduisant ses ennemis au statut de marchepied, on peut projeter sur cette phrase la puissance qu'on attribue aux anciens dieux, comme on peut projeter sur la mort du Christ les anciennes conceptions sacrificielles et ritualistes de la religion. Mais en vérité, le Christ vient faire toute chose nouvelle. Il vient briser notre idée de la puissance comme il a brisé notre idée de la religion et du sacrifice. La puissance qui triomphera de ses ennemis n'est pas la force de la violence, mais c'est la faiblesse de l'amour. Être chrétien, je crois que c'est ça, c'est croire, finalement, contre toute apparence, que la force faible de l'amour manifestée dans la vie, la mort et l'enseignement du Christ, et bien que cette force faible aura le dernier mot sur toute forme de violence et de domination. Le Christ règne, ça veut dire que la victoire est acquise, mais elle n'est pas encore réalisée. C'est cette espérance que proclame l'Épître aux Hébreux en affirmant que le Christ donc est vainqueur et qui règne à la droite de Dieu. Et c'est cette espérance que nous portons nous-mêmes dans les souffrances du monde et les imperfections de nos vies. Nous voulons à présent, en réponse à la parole reçue, confesser notre foi. Et nous le ferons à nouveau avec un texte de l'auteur par lequel nous avons commencé ce culte, donc Georges Crespy. Croire, c'est s'en tenir obstinément à cette conviction que nous n'avons jamais cessé d'être aimés et ne cesserons jamais de l'être par celui que nous appelons Dieu, et que nous ne connaissons et rencontrons que là où il a voulu lui-même se tenir, dans l'homme Jésus de Nazareth, qui a pour nous le visage même de l'amour. Il va de soi que croire ainsi, c'est du même coup risquer et jouer sa vie. Mais n'anticipons pas et tenons-nous-en pour l'instant à la fermeté d'une affirmation en quoi tient tout ce que nous appelons foi, l'affirmation de la présence aimante et bouleversante de quelqu'un qui a décidé de lier son destin au nôtre pour que nous devenions enfin des hommes et qui pour cela s'est laissé condamner, torturer, tuer par cela même qui n'a pas cessé d'aimer. La foi, c'est si l'on veut le fait de vivre dans ce paysage-là et de vouloir faire de son existence un pâle reflet de l'existence de celui qui n'a existé que pour nous. Partout où il y a ce vouloir et ce vivre, il y a la foi. Notre confession de foi nous unit à tous ceux qui, en ce moment même, célèbrent le culte. Mais notre prière ne s'arrête pas aux frontières d'une communauté et nous voulons à présent nous associer en pensée à tous ceux qui souffrent. C'est le moment de la prière d'intercession. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences et leurs richesses. Nous te prions pour les solitaires, conduis-nous sur le chemin de leurs souffrances. Te prions pour les méprisés et les détenus, rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades, inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et chacun, là où il est, en son cœur ou à haute voix, peut à présent dire la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons, pour terminer ce culte, l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Allez maintenant annoncer l'évangile du pur amour, en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
Yeah.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Didier Travier, prédicateur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.